vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas de rien, Godard.
Au cinéma sur Radio B et diffusé tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30.
Cinéma de Saint-Antal et de film en film, je t'ai donné mon existence. Cinéma, cinéma.
Bonjour à tous, pour ce 10e épisode, on commence comme l'année dernière avec légèreté avec mon top flop des films sortis en 2021. Alors il sera forcément incomplet car je n'ai malheureusement pas pu voir tous les films qui m'intéressaient, mais j'en ai tout de même vu suffisamment pour avoir une bonne vision d'ensemble. Je commence par mes films préférés de l'année, dont j'ai eu la grande surprise de constater qu'ils sont majoritairement français. Alors pour moi, la palme du meilleur film revient à Illusion perdue de Xavier Giannoli, l'adaptation ambitieuse du roman de Balzac. Il nous raconte le destin de Lucien Rudempré, un jeune poète d'Angoulême, qui part à Paris pour devenir écrivain, mais qui devient finalement journaliste à succès d'un journal. Nous sommes au 19e siècle sous la Restauration et Lucien est prêt à tout pour réussir. Il abandonne ses ambitions littéraires, renie ses principes et passe sans scrupule d'un journal libéral à un journal monarchiste, mais ses compromissions susciteront les attaques de ses anciens amis et provoqueront sa chute.
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi mon métier?
Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Impossible de rester insensible devant ce film formidable. Il nous plonge dans les coulisses du média dominant au 19e siècle, celui qui était alors au cœur des débats et du pouvoir, le journal. Il nous révèle un monde totalement truqué où les journalistes sont payés pour dire du mal ou du bien des œuvres qu'ils critiquent. Ils créent des polémiques de toutes pièces afin de faire parler d'elles et favoriser les ventes. Ils payent même des professionnels pour faire applaudir ou huer des pièces de théâtre. Le réalisateur nous entraîne dans ce tourbillon coloré et virevoltant en rendant chaque enjeu passionnant. Il évite surtout l'écueil d'une reconstitution historique figée grâce à une énergie folle et des acteurs merveilleux. Autant vous dire que les 2h30 ne sont pas de trop. Deux comédies cultes étaient particulièrement attendues cette année avec le retour de Kaamelott et d'OSS 117. On commence comme il se doit avec le roi Arthur.
Où est Arthur Pendragon?
Un gars pas bien grand, blanc comme un cul.
Oh, ça me dit rien.
10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous.
Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis.
Mon Dieu.
Par tous les saints.
Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever.
Ah, Seigneur Lancelot.
Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties.
Bravo, alors c'est très constructif.
La résistance, ça vous dit quelque chose?
Allez, en piste.
Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance.
Vous entendez quelque chose?
Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire, vous entendez quelque chose?
Enfin, quelque chose de complètement informel, hein.
C'est pas possible d'être largué à ce point-là!
Comment ça se passe, cette petite résistance?
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour »?
Bah, des fois que vous redeveniez roi.
Quoi?
Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça...
Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott, a beaucoup parlé de l'art de l'écriture scénaristique et a lui-même très sérieusement étudié les techniques narratives afin de créer une structure dramaturgique cohérente. On pourrait se demander si une telle réflexion était vraiment utile pour pour ce qui n'était au départ qu'une sitcom de moins de 3 minutes sur M6. Eh bien oui, car Kaamelott est devenu une succession de changements de format, le très court, puis le moyen, puis le long, et de genre, la comédie, le drame, l'action. La plupart des auteurs ont de la chance lorsqu'ils arrivent à briller dans un seul de ces domaines. Astier, lui, est parvenu à accomplir chaque étape, patiemment et prudemment, pour aboutir à un édifice solide. Et on le comprend encore mieux avec ce film, qui remplit parfaitement ses objectifs, à savoir assurer la transition entre le format série et le format film, en respectant une continuité d'esprit, tout en trouvant un ton nouveau et en lui donnant une nouvelle ampleur visuelle. Et ensuite, il pose les bases d'une nouvelle trilogie à venir, en plaçant ses personnages à un tournant de leur histoire et en ouvrant le champ pour la suite. Encore une fois, c'est mission accomplie. Pour OSS 117, en revanche, on pouvait craindre le pire. Tout le monde voulait voir un nouvel épisode, mais entendre Michel Hazanavicius, le réalisateur des deux premiers films, et Dujardin lui-même à une époque, les spectateurs d'aujourd'hui ne sont plus assez matures pour comprendre le second degré. À croire que le politiquement incorrect pouvait faire rire hier, mais plus aujourd'hui, et qu'il serait devenu trop dangereux. Le changement de réalisateur et le choix de Nicolas Bedos n'étaient pas non plus le plus rassurant. Mais finalement, le nouveau réalisateur a fait taire toutes les inquiétudes.
Josie.
Oui, patron.
Appelez-moi 117. OSS 117.
N'êtes-vous pas le meilleur?
Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Hubert, que savez-vous de l'Afrique?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien.
Très bonne analyse, Hubert. Je compte sur vous.
Aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout.
Le président vous recevra à 16h.
Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair.
OSS 117, je vous présente OSS 1001.
117, le vrai, l'unique, la légende.
Vous savez très bien que j'opère toujours en solo.
Cette mission, vous allez me la mener tous les deux.
Pas mal, non?
On sent que le cinéaste aime beaucoup ce personnage. Il ne le prend pas de haut. Il se moque de lui, bien sûr. Il est toujours très naïf, étroit d'esprit et pas très futé. Mais il a aussi beaucoup de tendresse pour lui. Il ne le voit pas comme le représentant dégoûtant de tout ce que rejette notre époque, le racisme, le sexisme ou l'homophobie, mais plutôt comme un homme de son temps, avec ses propres valeurs, mais avant tout animé par une volonté de bien faire. Le scénario paraissait pourtant un peu cliché, avec l'introduction un peu facile d'un acolyte, un nouvel espion plus jeune et fringant, avec qui il fait désormais équipe. Mais cette idée d'un OSS vieillissant renouvelle le personnage en en faisant quelqu'un de plus sage, et qui peut peut-être lui aussi donner des leçons à la jeune génération qu'il considère comme un ringard. Bedos se moque finalement autant de la mentalité de l'époque d'OSS que de l'époque moderne qui s'annonce dans le film avec l'arrivée imminente de Mitterrand au pouvoir. Une alternance qui lui donnera sûrement du grain à moudre pour un prochain opus qu'on attend déjà. On reste dans le registre de la comédie politiquement incorrecte avec une mention spéciale à la grosse surprise de l'année, Orange Sanguine, un film assez fou de Jean-Christophe Meurice.
Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation.
Vos enfants, ils peuvent pas vous aider?
Oh non, mais les enfants, il en est pas question, non, non. On avait quand même peut-être une solution. On a un concours de rock, on en fait, là.
On a été qualifiés, déjà.
D'accord. C'est très hypothétique, malgré tout.
Oui. Ah, le ministre. Comment il va? Combien à l'étranger?
Une centaine de milliers d'euros.
En tout cas, j'ai volé personne, j'ai arnaqué personne.
Mais ouais, des ministres de l'économie. Alors, évidemment.
Oui, c'est l'ironie du sort, si on peut dire.
Monsieur le ministre, quel est votre plus gros défaut?
De dire la vérité.
Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut bien sûr un pays uni.
Nous voulons tous un pays uni.
Bon. Ce film débute comme une petite comédie à sketch assez classique, avec des apparitions de comédiens en vue comme Vincent De Dienne, Blanche Gardin et Denis Podalydès. C'est très drôle, mais l'objectif est surtout de parler de sujets sérieux, car il y a notamment question d'un ministre de l'économie digne de Jérôme Cahuzac, et de retraités en grande difficulté financière. Et puis vient le dérapage, le grand tournant. On change complètement d'ambiance à mi-parcours, ce qui est toujours hyper intéressant pour un film. Il suffit au réalisateur d'un seul plan, nous montrant un homme en train de nourrir un porc énorme dans son salon. Une vision totalement incongrue, photographiée comme les premiers films de Gaspard Noé, ce qui n'annonce rien de bon en général. Les personnages basculent alors presque dans l'horreur, mais pas une horreur gratuite, plutôt celle d'un conte moral cruel. Mais je ne vous en dis pas plus et vous conseille plutôt d'aller découvrir ce film unique dont je pense qu'on se souviendra. Enfin, je termine mon top par un film beaucoup moins drôle, mais passionnant. Bac Nord de Cédric Jiménez.
Tu sais quoi, on sert à rien.
on sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini.
Arrête-toi !
Arrête-toi !
Arrête-toi, discute !
Individu en fuite !
Tu serais qui, toi, tu serais pas ton insigne ? Tu serais quoi ? Tu serais quoi ? Tu serais rien !
Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là.
5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info.
C'est impossible. Cette cam est enregistrée. Fais comment, nous, là ? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir.
Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler ? Faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet le premier veut juste faire la une du journal pour faire le beau.
Tu veux devenir officier ? Fais cette opération.
C'est un film délicat à aborder car c'est rapidement devenu un objet politique. Pas étonnant puisqu'il nous montre la délinquance et les trafics dans les cités de Marseille et l'impuissance de la police face à cette situation. Il se situe dans la droite ligne des Misérables de Ladjili, sorti il y a 2 ans. Tous deux nous montraient la réalité des banlieues françaises d'aujourd'hui, avec beaucoup de réalisme, mais avec des partis pris différents. Les Misérables se concentrent sur les bavures policières, tandis que Bac Nord dénonce plutôt le manque de soutien aux forces de l'ordre. On peut en tout cas voir le chemin parcouru depuis la vision un peu romantique de la banlieue, telle que nous l'a montré Mathieu Kassovitz dans La Haine en 1995. Et sur la forme, c'est un très bon film policier et d'action français, hyper haletant, avec un trio d'acteurs génial, en particulier Gilles Lelouch qui mérite bien un César pour ce rôle. Faute de temps, je termine ici mon top. J'aurais également pu ajouter Aline, le biopic de Valérie Lemercier sur Céline Dion, Mandibule, le dernier film de Quentin Dupieux, Slalom de Charlène Favier, ou La Nuée de Juste Philippot, et du côté des États-Unis, House of Gucci de Ridley Scott. Mais passons plutôt à la dernière partie consacrée au flop. Je me contenterai d'en citer 2. Ce ne sont pas les pires films de l'année, loin de là, mais plutôt mes grandes déceptions parmi les films que j'attendais avec impatience. La plus grande a été provoquée par The French Dispatch du grand Wes Anderson, à qui j'étais pourtant prêt à tout pardonner. On retrouve pourtant bien son originalité et son style virtuose, mais il nous perd vite dans une mise en scène trop écrite, cérébrale et effrénée, avec une voix off également trop envahissante. Ce n'est pas vraiment un film sur le journalisme, car on voit très peu la rédaction, c'est plutôt un film journal, en tant que tel, qui nous montre les reportages d'un journal fictif, ce qui en fait un film à sketch. Alors c'est original, mais le problème c'est que ces sketchs ne sont pas très intéressants en soi, et les personnages très froids. Mon autre grosse déception concerne notre palme d'or française, Titane de Julia Ducournau. Mais alors là, impossible de comprendre l'intérêt porté à ce film. Il est vide, tape à l'œil et faussement transgressif. L'hommage à David Cronenberg est assez artificiel, l'histoire de la grossesse qui tourne mal est du déjà vu, surtout que ça ne donne rien au final. Bref, n'en dis pas plus, mais je vous le déconseille. Voilà pour ce top flop, l'émission touche maintenant à sa fin. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve le mois prochain au même horaire pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission sur le site internet de Radio B et sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. A bientôt.
Je vous présente Hubert, OSS 117, OSS 1001.
1001 ?
117. 117. Le vrai, l'unique. En tout cas, monsieur, je tenais juste à vous dire que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à vous qu'elle le doit.
Oui, enfin, il y a eu le général aussi.
Oui, mais...
Si.
Mais si.
Oui.
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 Ah, sacré Hubert. Toujours le mot pour rire.